Bienvenue dans la troisième saison du podcast Nouvelle Conscience. Dans ce podcast, je t'invite tous les mois à rencontrer des chercheurs, artistes, rêveurs d'un nouveau monde dans lequel résonne la mélodie d'une nouvelle conscience écologique et planétaire. Je suis Manon Sala, doctorante en sociologie et en sciences de l'éducation. Je m'intéresse à l'émergence d'un soi écologique dans un contexte social en pleine transformation. Alors, es-tu prêt, prête à me joindre dans ce jeu de pistes afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience? Aujourd'hui, je reçois Hugo Paul au micro de Nouvelle Conscience. Hugo Paul est un explorateur holistique. À la fin de ses études d'ingénieur, il fonde le projet Into the Tribes, dans lequel il part à la rencontre d'une dizaine de communautés apprenantes à travers l'Europe. Auprès des derniers chamans d'Europe, les Samis, des élèves d'une forest school en Espagne ou encore des moines de l'abbaye de Lérins, Hugo questionne l'art de faire communauté, dans une qualité d'être et de faire ensemble. De retour de son exploration, il nous partage ses apprentissages, ses doutes et ses espoirs dans une volonté de diffusion solaire au service de plus de reliance et d'interdépendance. Je vous souhaite un très bon moment en présence d'Hugo Paul.
Salut Manon.
Comment ça va aujourd'hui ?
Ça va super bien, merci beaucoup pour cette invitation.
Avec grand plaisir, je suis vraiment heureuse que tu sois sur le micro du podcast Nouvelle Conscience pour cet épisode 73. Donc Hugo, on va parler de ton parcours, de ton engagement, de tes intuitions qui t'ont peut-être guidé jusqu'ici. Pour commencer, j'aimerais te proposer de te présenter avec le cœur. Je dis souvent aussi « et en conscience », mais bon, ça je pense que tu le fais déjà, donc je t'écoute.
Je m'appelle Hugo. Aujourd'hui, je me présente comme un explorateur des communautés. Donc, je m'immerge dans une grande diversité de communautés pour à la fois mieux comprendre comment mieux faire et apprendre ensemble. Et aussi, je pense au fond de moi, pour créer du lien entre ces différentes communautés, être un trait d'union. En fait, c'est un champignon au sein des forêts qui permettrait de créer de la communication entre les différents végétaux. Voilà, je me vois un peu comme un petit champignon.
Un mycélium.
Un mycélium,
exactement. Ouais. Mais j'ai l'impression que le mycélium, il est souterrain, on ne le voit pas trop. C'est un peu le travail de l'ombre. Mm. Par contre, toi, tu es quand même dans la lumière. Tu as cette volonté aussi de diffuser. Peut-être qu'on peut revenir aussi sur le fait qu'à la base, tu es un ingénieur. En parallèle de tes études, tu avais œuvré justement pour créer ces ponts déjà bien avant ce projet que tu as créé aujourd'hui. Donc, quelles ont été tes motivations en fait ou tes prises de conscience?
Je pense qu'aujourd'hui, si je dois retracer mon parcours et là où la prise de conscience est venue, ça a été lorsque j'ai réalisé un voyage en Mongolie. J'avais 18 ans à l'époque et j'y suis parti en solitaire pendant un mois et demi pour aller justement comprendre les différentes visions de l'éducation là-bas. Sans le savoir, il y avait encore, je pense, cette notion de comment différentes peuples, différentes cultures arrivent à cohabiter ensemble, puisque là-bas en Mongolie, il y a aujourd'hui une grande diversité, avec à la fois une culture nomade qui est extrêmement présente, une culture bouddhiste aussi, et puis à côté de ça, un peu une occidentalisation de cette culture. Et voilà, ces trois cultures cohabitent ensemble, et parfois au sein même d'une même famille. Et ce qui m'intéressait d'aller voir là-bas, c'était justement comment ces trois cultures cohabitaient ensemble. Et en partageant là-bas mon quotidien avec ces personnes, je me suis profondément attaché au vivant, et notamment lorsque je partais des fois une à deux semaines juste avec mon sac à dos tout seul, bah, en fait j'ai compris que moi, homo sapiens, petit être vivant, s'il y avait une tempête et que j'étais tout seul dans ma tente, et ben, je devais voilà, prendre conscience que cette tempête-là, elle était beaucoup plus forte que moi, donc mieux la comprendre. Mm-hmm. Et ça a été aussi j'ai eu un fort lien avec le vivant, plutôt les mammifères, puisque là-bas c'est la viande que je mangeais, je devais la tuer puisque j'étais avec des nomades qui élevaient des moutons et des chèvres, et chaque jour quand on mangeait l'un des leurs, et ben je devais le tuer à main nue. Et donc je pense que aussi comprendre que ce qu'il y a dans mon assiette, ça causait ce type de souffrance là ça m'a marqué. Et quand je suis revenu de ce voyage, je me suis dit ok, aujourd'hui, maintenant, j'ai pas cette culture nomade, mais comment je peux mettre plus de conscience dans mon quotidien pour à la fois plus respecter le vivant dans sa globalité, mais aussi comment aujourd'hui je peux le protéger, puisque je me sentais responsable de prôner une culture qui détruisait le vivant.
D'accord. Et donc
aujourd'hui, comment je pouvais porter d'autres récits qui permettaient d'avoir un vrai lien, une vraie osmose, harmonie entre ces différents êtres vivants.
D'accord, merci beaucoup. Et est-ce que tu te considères comme un bifurqueur ou quelqu'un qui a fait sa bascule? Donc c'est un phénomène qui est très prégnant en France, hein, donc les étudiants de grandes écoles qui refusent la culture dominante qu'ils ont reçue dans leur école, dans leur université. Est-ce que toi, tu penses que tu as pris ce virage à 360?
Je pense que je me retrouve dans tout ce mouvement des bifurqueurs. Pour retracer ce parcours, moi j'ai eu une période vraiment d'opposition en fait à la culture avec laquelle j'ai grandi.
Oui.
Et je pense que c'est une étape assez essentielle en fait on rejette des choses. Moi j'ai changé d'école, j'ai commencé mes études à Toulouse, puis j'ai changé d'école pour aller dans une autre école d'ingénieur qui s'appelle l'UTC à Compiègne. Et une fois là-bas, je pense que je suis arrivé à une autre phase qui était avec le monde dans lequel je suis, comment je compose avec. Oui. Donc forcément, j'ai bifurqué puisque aujourd'hui, je suis loin d'un métier qui ressemble à ce que j'ai pu apprendre dans mon cursus. Pour autant, dans cette notion de bifurquer, là, je suis plutôt dans une phase de comment on arrive à lier ces différentes voies. Et je pense que c'est hyper important d'avoir de la bifurcation dans tous les sens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une manière d'aller bifurquer, et qu'aujourd'hui, oui, c'est important d'aller mettre ses mains dans la terre, mais c'est tout aussi important d'aller s'engager en politique, c'est tout aussi important d'aller changer les boîtes de l'intérieur. Bref, pour moi, il y a plein de manières d'aller bifurquer, et c'est aujourd'hui comment on arrive, avec toutes ces différentes voies et cette diversité de voies, à créer des liens, créer des interactions entre ces bifurcations.
Waouh, super. D'accord. Et qu'est-ce que tu as laissé derrière toi, justement, pour t'alléger et pour te permettre, à la fois dans le sens littéral et figuré, de partir avec ton sac à dos, explorer et refaire tribu?
Je pense que la première chose que j'ai dû laisser, c'est la pression de la réussite sociale. Moi, j'ai été élevé dans une famille où... un peu cette ascension sociale à chaque génération, avec un grand frère qui a fait les mêmes études que moi, enfin, plutôt du coup j'ai fait les mêmes études que lui si on le prend chronologiquement, et il y a cette notion de réussite qui est, si je résume, avoir un très bon salaire, une maison secondaire, un chien, une famille, et aujourd'hui devoir me dire qu'en fait il y a peut-être d'autres manières de réussir. Ça a été à la fois pour moi quelque chose de dur, de dire c'est quoi pour moi réussir dans la vie, et une fois qu'il y a eu ça, de le faire accepter à mon entourage. Donc ça, je pense que c'était le premier point de aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai dû laisser derrière moi. Et puis quelque chose d'assez nouveau que j'ai laissé derrière moi, et je pense qu'il a éclos durant cette exploration, c'est l'impact que je veux avoir dans le monde. Et aujourd'hui, alors que durant pas mal d'années, il fallait toucher le plus de monde, le plus globalement possible et le plus rapidement possible. Voilà, et qu'en fait, cette notion un peu presque capitaliste de l'impact. Aujourd'hui, je me mets beaucoup plus dans une notion d'incarner un nouveau monde, d'incarner une nouvelle conscience. Et ça me demande un travail perpétuel, personnel, de aujourd'hui, comment je fais pour incarner ce nouveau paradigme qui est peut-être un impact beaucoup plus profond, donc parfois accepter qu'il y ait ça va pas être en chiffres, ça va pas être en nombre de personnes, en nombre de vues, en nombre de personnes touchées, mais beaucoup plus en termes de quel impact profond j'ai pu créer au sein des personnes. Et sachant que ça passe avant tout avec comment moi j'arrive à me transformer personnellement et à incarner ce nouveau monde qui est pour moi un chemin perpétuel dans ma vie, puisque je grandis et je grandis encore aujourd'hui dans un monde qui a de nombreuses contradictions, et donc comment j'arrive aussi à vivre ces contradictions-là pour incarner ce nouveau monde.
D'accord. Et tu as évoqué beaucoup d'aspects, à la fois l'eau vivant, à la fois l'importance de s'alléger, de vivre en intégration, avec d'intégrer, d'incarner ses valeurs, et puis aussi l'aspect éducatif, l'aspect de la transmission. Pour toi déjà, ce serait quoi l'éducation? Enfin, quand tu parlais d'aspect éducatif, est-ce que tu pourrais revenir dessus? Parce que c'est un terme assez large.
Ouais. L'éducation, sans le savoir, en fait, ça a été toujours, au centre aujourd'hui de mon parcours. Et quand je vois l'éducation aujourd'hui, j'imagine des petits jardins avec, le rôle de l'éducateur ou de l'éducatrice qui est de créer l'environnement qui soit le plus riche pour que les personnes puissent grandir dedans. J'aime bien cette métaphore du fait que, en fait, l'éducation, c'est pas d'aller pousser sur la petite plante qui pousse et d'aller tirer sur ses feuilles, puisque en tirant sur ses feuilles, on risque simplement juste de tuer la plante, mais plutôt de lui donner tous les nutriments nécessaires pour qu'elle puisse évoluer, et parfois, des fois, mettre peut-être un tuteur qui permette à la plante de l'aider à grimper. Mais aujourd'hui, c'est cette vision-là que j'ai de l'éducation. Et je pense aussi, moi, dans ma manière d'être et de faire, il y a cette notion aussi d'exploration dans l'éducation. Voilà comment, même s'il y a cet environnement-là, on laisse la liberté aux personnes d'aller voir ailleurs, d'aller se nourrir d'autres écosystèmes. Puisque je sais que moi, aujourd'hui, c'est comme ça que je grandis, c'est en rencontrant des personnes. Et je pense que toi, si aujourd'hui tu fais un podcast, c'est qu'il y a aussi cette vision-là d'aller rencontrer des personnes, d'aller se nourrir d'autres visions. Et je crois beaucoup en cette nécessité d'aller voir ailleurs, qui plus est dans un monde qui est de plus en plus fragmenté, où le risque de l'éducation aujourd'hui, ce serait de prôner une manière de faire, une vision du monde, alors qu'il y en a plein qui coexistent en même temps. Et donc, comment on arrive à la fois à créer un socle commun entre toutes ces manières d'éduquer, mais à la fois aussi comment on crée des ponts entre ces différentes manières de faire et d'être, puisque je ne crois pas en un modèle unique éducatif. Donc voilà, c'est le curseur à trouver, et je suis loin de l'avoir trouvé, et je pense que ce sera une recherche perpétuelle, mais de voilà, avoir ce socle commun et avoir cette diversité de recherche et de système éducatif.
D'accord. Et donc là, tu reviens d'un voyage d'un an, justement, où tu es allé explorer ces différentes façons de faire commun, de vivre ensemble. Je ne sais pas s'il y avait toujours l'aspect éducatif dedans, mais est-ce que tu pourrais nous raconter ce que tu as fait pendant ces un an, qui tu es allé rencontrer, voilà.
Ouais, en sortant de mes études, en 2022, je sors donc de 5 ans d'années d'engagement, et je me rends compte que les communautés, elles ont un incroyable pouvoir pour à la fois transformer collectivement, c'est-à-dire de mettre en mouvement un grand nombre de personnes pour aller changer de manière structurelle les différents enjeux auxquels on a envie de se confronter. Et au-delà de cette transformation sociétale, il y a aussi cette transformation individuelle, personnelle, intérieure, où lorsqu'on est à la bonne place, avec les bonnes personnes, sur la bonne mission, il y a des changements qui se créent, ça catalyse des transformations, et je crois en cette puissance du collectif, et donc d'avoir à la fois au sein des communautés ce changement à la fois sociétal et individuel, qui sont deux échelles dont on a besoin pour mener les transformations auxquelles on doit faire face aujourd'hui. Et donc, pour aller comprendre aujourd'hui comment on faisait communauté, j'ai décidé de partir pendant un an à la rencontre d'une grande diversité de collectifs qui, aujourd'hui, pour moi, m'inspirent dans la manière de faire ensemble, mais peut-être même plus d'être ensemble. Et donc, j'ai préparé, ficelé toute une exploration pendant 12 mois avec trois grands chapitres. Le premier chapitre, c'était le retour aux sources. C'était de se dire comment aujourd'hui les communautés ancestrales peuvent nous inspirer, nous apprendre à refaire communauté. En fait, on fait communauté depuis la nuit des temps. Donc aujourd'hui, comment ces communautés peuvent nous apprendre, nous transmettre cet art de faire ensemble. Ça, c'était le premier point. Ensuite, il y a eu un deuxième chapitre qui s'appelait « Au-delà des frontières ». C'est de se dire aujourd'hui, on vit dans un monde en pleine mutation. qui fait émerger de nombreuses initiatives et donc aussi de nombreuses initiatives sur notre manière de faire communauté. Et donc j'avais cette envie-là d'aller voir ces nouvelles communautés qui se forment, que ce soit sur l'intelligence artificielle, que ce soit sur parties de la population qui sont parfois à l'écart de la société, que ce soit des personnes en situation d'exil ou des personnes qui sortent de prison. Et enfin, il y avait un troisième chapitre qui était « Former pour demain ». Et donc là, l'aspect éducatif est au cœur. Et c'est de se dire, en fait, aujourd'hui, comment on apprend à faire communauté, mais aussi comment la communauté peut nous permettre de faire ensemble. Comment dans ce monde en pleine mutation, où on a besoin d'apprendre perpétuellement puisque les enjeux se transforment jour après jour, comment dans ce monde chaotique, on arrive à apprendre ensemble. Et donc là, je suis allé voir une école dans la forêt, je suis allé également voir les scouts en France, et puis enfin, je suis amené par une école de la coopération qui s'appelle Fertile.
Ouais. Waouh, c'est un sacré parcours, beaucoup de rencontres, j'imagine, et de prises de conscience. Et est-ce que tu as vu des points communs entre ces différentes façons d'être ensemble, ces différents chapitres? Est-ce que pour toi, il y aurait un fil rouge qui relierait l'ensemble de ces espaces?
Pour moi, il y a différents principes qui aident à faire communauté. Avant de rentrer peut-être dans ces principes, c'est pour moi important de mentionner le fait que faire communauté, c'est pour moi plus un art qu'une science, et qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui est sûr dans la manière de faire communauté. Bien sûr, on peut s'aider de principes qui vont nous aider à nous rassembler, cultiver une communauté sur le long terme, mais comme un art, en fait, on a besoin de s'approprier ces principes et de laisser place à la fois à son intuition, ce qui vient vraiment ici de notre cœur, de nos tripes, mais aussi d'aller s'approprier ces principes par rapport à la culture dans laquelle on est. Donc, ce que je vais partager là, c'est en aucun cas des grandes règles qu'il faut suivre mot pour mot, mais plutôt qu'il faut s'approprier et ensuite y mettre ses propres touches de couleur et ses propres méthodes. Maintenant, une fois que c'est dit, je pense que le point essentiel de toute communauté, c'est d'avoir une vision commune et une mission qui permette d'aller rejoindre cette vision. C'est pour moi important d'aller distinguer ces deux choses-là, donc de la vision, de la mission, puisque aujourd'hui, différentes communautés peuvent nourrir une même vision. La vision, c'est le monde idéal dans lequel on aimerait vivre, ce pourquoi on se rassemble. Maintenant, la mission, c'est comment on arrive à cette vision-là. Et si je prends l'exemple des moines, puisque j'ai vécu pendant un mois dans un monastère, aujourd'hui, la vision des moines, c'est d'aller construire un monde qui soit basé sur les valeurs chrétiennes, donc de l'amour du prochain et de leur lien à Dieu. Ça, c'est leur vision. Et à côté, la mission de ces moines, c'est d'aller incarner pour eux les valeurs chrétiennes dans un esprit de fraternité. Mais pour aller chercher cette vision, eux, c'est une manière de faire, qui est la vision monastique. Mais après, il y a plein d'autres missions, on peut être prêtre, on peut fonder une famille, on peut avoir plein d'autres manières de le faire. Et pour moi, c'est important lorsqu'on fait une communauté, de se dire, il peut y avoir une vision commune. Pour autant, si quelqu'un arrive dans ma communauté avec une mission vraiment différente, c'est mon rôle de lui dire, peut-être que là, c'est pas le bon espace. À la fois, moi, je vais pas pouvoir nourrir tes besoins au sein de cette communauté, mais aussi, toi, tu vas pas pouvoir réellement t'émanciper, réellement pouvoir avoir un terrain qui puisse te faire grandir. Et donc, aujourd'hui, c'est pour moi hyper important au sein de cette communauté d'avoir cette vulnérabilité, de se dire qu'on peut pas répondre aux besoins de chacun et que c'est au rôle à la fois des personnes qui y rentrent, mais aussi des communautés, de trouver ce bon terrain, cette belle mission qui puisse rassembler des membres tout en se disant que si c'est pas la bonne mission, on peut aller voir d'autres communautés qui vont nourrir cette même vision, mais peut-être pas avec la même mission.
D'accord. Je trouve que c'est important ce que tu soulignes ici, c'est vraiment le fait qu'au sein du groupe, on puisse quand même laisser émerger qui on est vraiment, puisque je pense que l'un des risques des communautés, c'est justement de venir annihiler les différences individuelles, et puis justement trouver à la fois ce terreau, tu parlais donc de l'éducation comme un sol, ce terreau pour laisser émerger l'authenticité et l'intégrité de chacun tout en étant soutenu par la force du groupe. C'est vrai qu'il y a beaucoup de communautés où émerge une personne ou deux qui vont venir un peu prendre le lead. Mmh. Toi, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Est-ce que tu penses qu'on peut réussir à faire corps, à être une communauté tout en étant dans une sorte d'égalité structurelle entre les membres?
Ça, c'est une grande question et aujourd'hui, j'ai pas la réponse. Je me penche pas mal dessus, notamment avec les principes sources de Peter Koenig qui, justement, va aller étudier ces manières, ces différentes visions du leadership au sein d'un collectif. Aujourd'hui, moi, j'aimerais, je rêverais de communautés où il n'y ait pas une tête qui ressorte de ce collectif. Pour autant, aujourd'hui, si je veux être totalement transparent, je n'ai pas vu une seule communauté où il n'y avait pas un ou une leader qui allait porter ce collectif, qui allait incarner ses valeurs. Puisque pour moi, donc, dans une communauté, au-delà de la vision et de la mission, la culture est extrêmement importante. Et une culture est basée sur des valeurs. Et ces valeurs-là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile à se relier à elles, c'est beaucoup plus facile d'être entraîné par ces valeurs lorsqu'elles sont incarnées par une personne. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on le voit dans la plupart des collectifs, d'ailleurs dans la plupart des religions aussi, que c'est bien souvent incarné par une ou plusieurs personnes, mais majoritairement une personne. Et donc, aujourd'hui, moi, je rêverais qu'on arrive à trouver une nouvelle manière de faire collectif qui soit beaucoup plus horizontale et où ces valeurs soient représentées plutôt par un collectif que par des personnes au sein de ce collectif. Pour autant, aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvé. Néanmoins, j'ai assez confiance dans le fait que, dans une nouvelle manière de faire ensemble, d'être dans cet art qui continue à évoluer dans le temps, on puisse réussir à trouver ces nouvelles manières de faire communauté qui soit incarnée au travers d'une pluralité de collectifs. Et sur ça, moi, j'aime bien mentionner les travaux d'Alain Damasio, qui est un auteur qui, aujourd'hui, dans ses livres, ne porte pas un héros ou une héroïne dans ses romans, mais un collectif qui, on rentre dans la tête de différents personnages. Mm-hmm. Et pour moi, ces nouvelles manières, ces nouveaux récits, permettent de recréer une nouvelle manière de faire ensemble, une nouvelle manière de voir le collectif avec une culture qui soit portée par différentes têtes, plutôt qu'aujourd'hui, moi, l'ensemble des autres livres à part Alain Damasio que je lis, c'est toujours un héros ou une héroïne. Oui. Et donc voilà, comment aussi, au sein de nos récits, au sein de nos manières de faire, on arrive à porter ces nouvelles manières d'être ensemble, c'est pour moi assez important.
Oui. Est-ce que tu aurais quelques titres d'Alain Damasio, comme ça je les mettrai dans la description du podcast, de livres qui t'ont inspiré sur cette vision-là?
Alors, il en écrit 3 livres, mais mes deux préférés, parce que c'est quand même des gros pavés, donc je ne vais pas vous balancer le bras, mes deux préférés, c'est de commencer par La Horde contre vent, où on suit une horde qui va à l'autre bout du contrevent, donc c'est un récit incroyable. Et puis enfin, son troisième livre, qui est son dernier aussi, s'appelle Les Furtifs. Dans Les Furtifs, on plonge dans un monde où on est toujours plus surveillé, et donc on va à la recherche de ce qui est furtif, ce qui passe à travers l'œil du radar. Et au-delà de l'ensemble des valeurs profondes écologiques, il y a pour moi vraiment cette notion de collectif, et donc comment on arrive dans une forme de lutte, puisque c'est quand même assez révolutionnaire, d'aller lutter collectivement. Ces travaux-là, c'est l'un de mes auteurs préférés, et je l'adore puisqu'il arrive à, au-delà du message qu'il porte, mais d'incarner son message dans sa manière d'écrire. Et donc je le conseille vraiment à toutes les personnes qui souhaitent se plonger dans ces nouvelles manières d'être et de faire ensemble.
Super. Tu parlais tout à l'heure d'un rêve, et moi j'ai noté en faisant mes recherches que ton rêve actuel, c'était de se réapproprier l'art de faire communauté. Et tu parles beaucoup d'incarnation. Du coup, justement, comment toi tu incarnes ce rêve?
Oula, grande question. Je pense que je suis en chemin. Déjà, un des grands points et qui peut paraître des fois un peu fou pour les personnes qui voilà, me voient de loin bosser sur les communautés, prôner ce message de faire ensemble, d'être ensemble, cette image un peu extérieure, assez sociable qu'on peut imaginer de moi. Et en fait, quand les gens vivent avec moi et se rendent compte que je suis quelqu'un mais de hyper introverti, et qui en fait, si je peux amener de l'énergie dans un groupe, il faut absolument que j'ai de l'énergie que je vienne récupérer seul. Ouais. Ben, en fait, les gens, ils comprennent pas du tout. Et donc, pour moi, c'est en fait une manière déjà d'incarner ça. C'est de montrer que dans un collectif, il y a plein de manières de vivre dans un collectif et que chacun a ses besoins. Et qu'il y en a, ils sont extravertis et ils vont récupérer leur énergie au travers du groupe. Oui. Et d'autres qui sont introvertis, comme moi, et qui ont besoin d'aller chercher cette énergie seule. Moi, c'est vraiment tout seul dans la nature. Et si je n'ai pas ces moments-là, je ne pourrais pas donner de l'énergie au groupe. Et donc ça, je pense que c'est déjà de l'assumer dans un groupe. C'est une première manière de l'incarner. Après, une autre manière de l'incarner, et ça, c'est aussi à la suite de l'exploration que je me suis vraiment posé dessus et dit et j'essaye en tout cas de l'incarner le plus possible comme un véritable objectif de vie, c'est d'être là pour ma famille, d'être là pour mes proches. Donc voilà, j'ai pendant un an j'ai très peu vu moi ma famille et j'ai essayé d'être là pour eux pendant mes études, mais voilà, j'ai toujours été il m'appelle le vagabond, donc c'est pour te dire à quel point j'ai été assez éloigné de ma famille. Pour autant, aujourd'hui, même si là j'habite pas dans la même région qu'eux, il y a vraiment cette volonté d'être là pour elles et eux. Et aujourd'hui, si je dois citer ma première communauté, je veux que ce soit ma famille. Et ça commence à impacter certaines dimensions de ma vie et certains choix aussi, quand on parlait d'impact au début,
oui.
De choix d'impact, de choix de quelle énergie je mets sur mon monde professionnel et mon monde plutôt personnel. Donc je pense que cette manière d'être là pour ma famille et mes proches aussi, des amis très proches, je pense que c'est ma première manière d'incarner cette volonté de faire communauté, d'être en communauté. Et ensuite, il y a un deuxième aspect, aussi très personnel, qui est d'avoir une vision long terme. Il y a un moine, lorsque je vivais avec eux, qui m'a partagé une phrase qui résonne encore aujourd'hui en moi, qui est de « si je veux me relier à la vie, il faut que je m'engage à vie ». Ce moine-là, il s'appelle Frère Irénée, il a 92 ans, il est rentré au monastère à 20 ans, donc ça fait 72 ans qu'il est dans la même communauté. Il fait vœux, donc c'est des vœux solennels qui l'obligent, en tout cas qui fait la promesse d'être au sein du même lieu avec les mêmes personnes durant toute sa vie. Donc en termes d'engagement, c'est de quoi il parle. Et alors que moi, avant cette immersion, je m'étais rarement engagé. Plus de 6 mois dans n'importe quel projet, logement, relation. Ça a été un vrai déclic de me dire, en fait, oui, si demain je veux réellement me relier à la vie, il faut peut-être que j'arrive à voir un peu plus long terme. Et en effet, que ce soit pour une relation, un environnement, on n'a jamais la même posture si on sait qu'on y est pour 3 semaines, 1 mois, ou si on sait que ce jardin, cet environnement, on va le garder tout au long de notre vie. Et je pense que pour les relations, c'est la même chose. On n'agit pas de la même façon avec son voisin de palier si on sait que en fait, cette personne-là, dans un mois, je quitte mon logement, que si ce voisin de palier, je sais que je vais l'avoir tout au long de ma vie et que du coup, cette relation-là, il faut que je la chérisse.
Oui.
Et donc aujourd'hui, j'essaye, en tout cas, dans mes relations, de me dire qu'est-ce que je ferais si cette relation-là, elle est encore vivante d'ici 20, 30 ans, comment j'agirais? Et donc ça me permet, je pense aujourd'hui, d'avoir beaucoup plus de conscience dans la manière de faire communauté et de gérer mes relations.
D'accord. Waouh, moi en tout cas ça me touche, hein, c'est des très beaux principes et cette notion d'engagement, je pense, est centrale, quel que soit là où on met son énergie. Et tu fais partie du Youth Fellow du Learning Planet Institute. C'est un groupe de jeunes de 17 pays différents, qui, donc des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans. Vous partagez sur comment être et faire et vivre cette communauté apprenante. Comment cette communauté te soutient? Et est-ce que le terme de communauté apprenante, tu voudrais ajouter quelque chose là-dessus? Est-ce qu'il y a une autre vision là-dedans?
Donc il y a les Youth Fellows qui sont un mouvement, là avec, je crois, des centaines, voire des milliers de différents militants, différents jeunes engagés sur différents sujets. Puis après, il y a le Youth Council, qui est là, qui est ce rassemblement de ces 17 jeunes de 17 pays différents. Et ce que ça m'a apporté, c'est... En fait, ça m'a ouvert la vision du monde. À cette époque, je bossais pas mal sur la transformation de l'enseignement supérieur en France. Donc voilà, je menais une coalition avec les principales organisations de l'enseignement supérieur en France, qui soient étudiantes ou non étudiantes, qui agissent pour la transformation de l'enseignement supérieur, pour les faire bosser ensemble et faire des liens avec les différents ministères. Et donc, j'avais cette vision très... franco-française, de aujourd'hui changer l'éducation, c'est y mettre plus d'enjeux sociaux, environnementaux, et que ce soit au terme de contenu que de contenant. Et j'étais vraiment en focus uniquement sur ça, et j'arrivais pas à voir ailleurs de ce que pouvait être la transformation de l'éducation. Et au travers de ce Youth Council, en fait, je me suis aperçu que dans les Philippines, oui, c'était important d'insérer les enjeux sociaux et environnementaux, mais c'était peut-être encore plus important juste que tout le monde puisse avoir accès à l'éducation. Pareil, une personne qui était en Afrique du Sud, aujourd'hui, toutes les femmes puissent avoir accès à l'éducation autant que les hommes et qu'il y ait moins de discrimination, c'était peut-être un peu plus important que insérer les enjeux sociaux et environnementaux. Et donc, ça m'a permis de me dire que, oui, en fait, à l'échelle mondiale, aujourd'hui, en termes d'éducation, il y a d'autres préoccupations, d'autres priorités, et que ça ne veut pas dire qu'en France, il ne faut pas mener ces combats, mais comment on peut parfois se défocaliser et nourrir ces différentes approches et faire que, à différents stades de transformation, on arrive à créer des liens entre les différents enjeux au sein même d'une même dimension qui était là, la dimension éducative. Donc ça m'a apporté, je pense, ça m'a ouvert mes écoutilles, me dire « Ah, ok, il existe d'autres choses au sein de la transformation de l'éducation. » Maintenant, sur les communautés apprenantes, ce que j'aime beaucoup, ces Youth Fellows sont portés par le Learning Planet Institute, et ce que j'aime beaucoup dans cette structure, c'est leur manière d'apprendre en faisant. De se dire qu'il ne faut pas attendre que tout soit parfait pour se lancer. Et donc, moi, j'étais là, on était la première promotion. Et donc, ce serait mentir de dire que ça a été une expérience parfaite de A à Z. Il y a eu beaucoup de moments où... on ne savait pas trop où on allait, on ne savait pas trop pourquoi on était là. Bref, il y avait plein de choses qui auraient pu être améliorées et que je suis sûr, depuis 3-4 ans, on réussit à améliorer, puisque justement, ce qui permet cette amélioration-là, c'est qu'il y a beaucoup d'espace d'écoute, de feedback, de prise de hauteur. Et ça, je pense que c'est le plus important et c'est ce qui fait aujourd'hui une communauté apprenante, une communauté qui apprend d'elle-même, ne peut apprendre d'elle-même s'il n'y a pas ces espaces de réflexivité. Mmh. Et si, pour moi, ce qui aussi change le paradigme entre communauté et communauté apprenante, c'est que la dimension de l'apprentissage est mise presque au même niveau que la réussite de la mission de la communauté. Mmh. Donc là, sur les Youth Fellows, le Youth Council, c'était de se dire à quel point la réussite de nos projets personnel au sein de ces enjeux est autant d'importance que l'apprentissage personnel de chaque membre du Youth Council au sein du processus d'apprentissage et de communauté qu'il y avait au sein du Youth Council. Et pour moi, ça, c'est un vrai enjeu. Je dis pas que toutes les communautés doivent être des communautés apprenantes. Il y a des communautés qui peuvent être des choses un peu one shot où voilà, il faut qu'on mettons je pense souvent aux partis politiques, voilà, quand il y a des campagnes qui sont menées, en effet c'est souvent du one shot où on prend peu de temps de réflexivité, et pour moi c'est fine, c'est ok. Pourtant il y a plein d'autres communautés où je pense que de réussir à mettre autant d'importance à la réussite de l'apprentissage qu'à la réussite de la mission, là ça apporte une vraie plus-value, puisqu'alors on se place sur long terme et ça nous permettra in fine, au fur et à mesure des projets, d'avoir des meilleurs résultats, une meilleure, j'aime pas le mot productivité, mais en tout cas une meilleure efficacité sur ces différents projets.
Oui. Oui, bon, ça revient à la notion d'engagement dont tu parlais, où en fait le but c'est de rester unis, et en même temps ça rappelle aussi ce dont tu parlais, de laisser sa place à l'individualité de chacun, comme en fait une force pour composer ce jardin. Voilà, puisque finalement le vivant se nourrit de la diversité pour pouvoir exister, et du coup c'est ça qui permet la vie sous toutes ses formes.
Exactement, un peu de biodiversité dans la communauté.
Voilà, c'est ça. Super Hugo, on va arriver à la fin de l'épisode. J'aimerais te poser, avant qu'on se quitte, la dernière question du podcast, qui est celle pour toi de la définition d'une nouvelle conscience.
Désolé, ça va faire très Inception, hein, mais je pense qu'aujourd'hui, une nouvelle conscience, c'est de mettre plus de conscience dans ce qu'on fait et dans ce qu'on est. On vit un monde où il y a plein de paradigmes qui cohabitent ensemble, ce qui fait qu'on est dans un monde avec plein de contradictions. Et de vivre avec ces contradictions, c'est difficile. Mais du coup, ça demande d'avoir conscience que ces contradictions existent et qu'on ne pourra pas arriver à une incarnation parfaite du paradigme dans lequel on aimerait tendre. Et donc pour moi aujourd'hui, cette nouvelle conscience, c'est de se dire, voilà, j'ai peut-être un paradigme qui me parle, qui cohabite avec d'autres paradigmes, et comment aujourd'hui, à la fois, j'essaye de tendre le plus possible vers ce paradigme-là, tout en prenant conscience que aujourd'hui, dois cohabiter avec ces paradigmes-là, et c'est pas pour autant que je dois me flageller de pas être parfait sur ce paradigme-là. Je dirais que c'est le premier point de cette nouvelle conscience-là, et c'est peut-être un deuxième point qui serait peut-être d'accepter que cette nouvelle conscience, elle a peut-être un S, et c'est peut-être des nouvelles consciences, et accepter en toute humilité que d'autres personnes peuvent avoir d'autres visions du monde, et que si ça se trouve c'est à la conjecture de nos deux consciences ou nos multiplicités de consciences que naîtra cette nouvelle conscience.
Merci beaucoup Hugo. Et comment on peut te suivre, te contacter si on veut te faire intervenir ou te parler?
Ouais, donc aujourd'hui, moi j'écris une newsletter qui s'appelle Refaire Tribu, où chaque mois je partage les apprentissages pour faire communauté, apprendre en communauté. Et donc vous pouvez aller sur mon profil LinkedIn, vous trouvez facilement cette newsletter. Et ensuite, vous pouvez me contacter pareil par LinkedIn pour des interventions, parce que j'interviens pas mal sur voilà, comment se réapproprier cet art de faire communauté. Et enfin, si vous êtes un peu patient, il y a un livre qui sortira à la fin de l'année sur toute cette épopée à travers les communautés pour se réapproprier et découvrir l'art de faire communauté.
Super, merci.
Merci Manon.
Merci pour ton écoute. Si ce podcast t'a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Si ce n'est pas encore fait, tu peux aussi t'abonner au podcast. Ça se fait en un clic, ça prend 2 minutes et ça fait toute la différence pour moi. C'est en parlant du podcast autour de toi que tu lui permettras de se déployer. Alors n'hésite pas à m'écrire, à me donner des idées, de personnes à rencontrer, tes réflexions. Je suis toujours heureuse de vous lire, de vous répondre et puis d'entamer des conversations parfois surprenantes avec vous. Alors merci du fond du cœur pour ton soutien et je te dis au mois prochain.